Prions notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, toi qui de toute éternité règnes dans les cieux et sur la terre, reçois, accueille, nous te le demandons, notre prière de louange et de reconnaissance pour le don précieux que tu nous as accordé en la personne de Jésus-Christ, ton Fils. Lui qui est, nous enseigne ta sainte parole, non seulement la véritable lumière qui éclaire tout homme qui s'approche de lui, mais également le pain de vie qui seul rassasie. Est-il, et il est la source d'eau vive qui désaltère pleinement. Merci Seigneur, parce qu'il est également la porte, cette porte céleste par laquelle nous pouvons pénétrer dans ta présence et nous placer ainsi à ton écoute. Aussi, dans ton amour et ta grâce, veille ce matin à nous parler, nous interpeller comme toi seul tu peux le faire, nous enseigner et nous fortifier, et qu'ainsi ta parole ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté, et qu'elle nous transforme à la louange et à la gloire de ton saint nom. C'est en Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous te prions. Amen. Ce matin, c'est dans la prophétie d'Agée au chapitre 1er que je vous invite de me suivre, où nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Agée, chapitre 1er, verset 1 à 6. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit : le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous ? Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Et le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ce triste récit, consigné sous la plume du prophète Agée, doit être pris en compte, doit être considéré, en tout cas me semble-t-il, à la lumière des deux derniers versets que nous trouvons dans le deuxième livre des Chroniques. Deux versets qui nous transportent dans quelques vingt années auparavant, dans l'Empire perse, à la tête duquel régnait Cyrus, un monarque puissant, dont Dieu, est-il écrit, réveilla l'esprit, tant et si bien qu'il reconnaîtra publiquement que c'est l'Éternel, le Dieu des cieux, qui lui a donné tous les royaumes de la terre et lui a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Pour ce faire, dira Esdras au chapitre 2, Cyrus invitera alors les Israélites qui étaient en captivité à Babylone de se lever, de monter à Jérusalem afin d'y relever la maison de l'Éternel. Cet appel, malheureusement, ne sera accueilli favorablement que par une minorité de déportés. Et c'est ainsi qu'en 538 avant notre ère, un petit contingent d'hommes et de femmes a quitté Babylone et sa province pour regagner son foyer national, où sans tarder, ils rétablirent l'autel des holocaustes et entreprirent la reconstruction du temple. Ces fondations, très rapidement, ont été posées et le peuple en eut une telle joie qu'il les consacra par une grande fête solennelle. Une fête solennelle à l'occasion de laquelle, à part quelques anciens qui pleuraient parce qu'ils se souvenaient de la magnificence et de la grandeur du premier temple. Tous les autres personnages qui participaient à cette fête, eux chantaient, louaient Dieu sans retenue et ont fait éclater leur joie. Tant et si bien que leur cri, selon Esdras chapitre 3, était entendu au loin. Ce qui nous pouvons raisonnablement imaginer a dû faire croire alors qu'une telle ferveur, un tel enthousiasme ne pouvait que présager le meilleur quant à l'avancement des travaux. Et pourtant, ce chantier entrepris avec tant de zèle sera interrompu aussi vite qu'il avait commencé. Et il est resté malheureusement en état 18 années durant. C'était comme si le peuple d'Israël venait de tourner une page de son histoire et refusait d'écrire la suivante. Et c'est dans ce contexte d'immobilisme et d'échec que les deux plus hauts dignitaires du pays, c'est-à-dire Zorobabel, fils de Shealtiel, le gouverneur de Juda, et Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, s'entendront dire de la bouche du prophète âgé que Dieu, au regard duquel rien n'échappe, a pris acte que le peuple d'Israël, que dans les chaumières d'Israël, on en était toujours à dire « le temps n'est pas venu, le temps de rétablir la maison de l'Éternel ». Ce fut donc un constat triste et navrant, mais d'autant plus lourd de sens et de conséquences qu'il a mis en évidence un peuple pour qui l'obéissance à la volonté divine n'était plus à l'ordre du jour. D'où alors cette question, mais que s'est-il passé pour que ce peuple, qui 20 années auparavant avait si bien commencé, en soit arrivé à faire fi de la pensée et de la volonté divine? Que s'est-il passé? Eh bien, sûr, nous pouvons répondre que dès le tout début des travaux entrepris sur l'esplanade du temple, le peuple d'Israël a dû faire face à une opposition farouche de la part de ceux qui avaient vécu dans ce pays durant leur absence. Et afin d'arrêter les travaux, d'entraver l'avancement de celui-ci, ils ont non seulement gagné à prix d'argent des conseillers, mais ont également usé d'intimidation, de menaces, durant toute la vie de Cyrus et jusqu'au règne de Darius, roi des Perses. Mais ce qu'il nous faut surtout retenir à ce sujet, c'est que durant tout ce temps d'épreuves, de difficultés, de luttes, en aucun moment nous ne voyons ce peuple invoquer son Dieu. Nous le voyons prier, lui demander son aide et son soutien. En tout cas, pas un seul verset, pas un seul détail dans les textes ne nous permet de croire ou affirmer le contraire. Quoi d'étonnant dès lors que leur centre d'intérêt, que leur priorité à partir de ce moment-là a été la construction de leur demeure et non pas celle de l'Éternel. Surtout que ce n'était ni l'argent ni les moyens qui leur ont manqué alors. En effet, il est rapporté dans les livres d'Esdras et de Néhémie qu'au terme de leur captivité, sur ordre de Cyrus, les Babyloniens ont fait preuve à leur égard d'une très grande générosité. Et c'est ainsi que tout leur alentour, est-il dit, leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Aussi chacun de nous l'aura compris, les Israélites n'étaient certainement pas dans le besoin alors. Rien ne les empêchait de s'installer confortablement dans leur pays. Mais revenons, si vous voulez bien, au développement de notre texte qui, à bien le lire, met en évidence, s'il le fallait encore, combien Dieu a aimé son peuple. Combien Dieu a aimé cette nation qui, à tout bien réfléchir, ne méritait qu'une chose, être jugé et rejeté, laissé pour contre, mais que dans son amour et sa grâce, une fois encore, une fois de plus, Dieu va interpeller. Et il va l'interpeller non pas pour lui adresser un quelconque reproche ou lui rappeler que son alliance avec lui maintenant était rompue, mais afin que celui-ci s'arrête, qu'il rentre en lui-même et qu'il considère attentivement ses voies. Considérez, leur dira-t-il, considérez attentivement vos voies. Et si Dieu a parlé de la sorte, c'est parce qu'il y avait urgence. Oui, tout n'était que paradoxe, incohérence et contradiction dans l'existence de ce peuple. Aussi leur dira-t-il, et nous l'avons lu, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé, ou selon une autre version, le salaire du travailleur s'épuise aussi vite qu'une bourse percée. Oui, que de contradictions, que d'incohérences dans la vie de ce peuple. Des contradictions qui peuvent surprendre et troubler, d'autant plus que depuis toujours, et reprenez-moi si je me trompe, dans la bouche de nos parents, nous avons entendu, comme dans celle de nos professeurs d'école, que ce n'est que le travail assidu, un travail persévérant, qui seul peut assurer notre bien-être et celui de notre famille. D'ailleurs, Dieu lui-même ne l'enseigne-t-il pas à plusieurs reprises, et pour ne retenir qu'un seul exemple, nous citerons celui du livre des Proverbes, au chapitre 14 et au verset 23, où il est écrit que tout travail procure l'abondance. Oui, tout travail procure l'abondance. Et voilà que sous la plume du prophète Agé, nous disons, vous semez beaucoup, vous travaillez beaucoup, mais finalement, cela n'en vaut pas la peine, cela ne vaut pas la chandelle, vous recueillez peu. Et il en est de même, poursuit Dieu, dans le domaine culinaire, puisque vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Alors que dans la normalité des choses voudrait qu'à un moment donné, on en arrive à dire, je n'en peux plus, j'ai assez mangé, et cette bonne nourriture me sortira par les oreilles si je continue. Mais cela étant, reconnaissez également, dira Dieu en substance, vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous savez, je me souviens de deux personnes qui autrefois ont eu un même problème de santé et qui ont dû, la veille de leur examen, avant d'aller se coucher, boire 3 litres d'eau en l'espace de 2 heures, 3 litres d'eau auxquels était ajouté un médicament infect. Et ce qui a fait dire à l'une d'entre elles que ce moment a été un véritable supplice, et que si son mari n'avait pas été à ses côtés pour l'encourager, jamais elle n'aurait été jusqu'au bout de ce que lui avait recommandé le médecin. Quant à l'autre patiente, elle a tout simplement avoué que le dernier litre a rejoint la cuvette du WC. Aussi, allez donc dire à ces personnes que l'on peut boire et ne pas être désaltéré. Vient alors un autre paradoxe dans ce texte, non moins surprenant. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller en Israël, savent qu'il fait tellement chaud parfois que l'on a envie d'une seule chose, se dévêtir au maximum de ce que permet la décence. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Quant au dernier constat, le salaire de celui qui a gage tombe dans un sac percé, il est d'autant plus navrant qu'il s'épuise aussi vite qu'un sac percé. Il s'épuise aussi vite qu'un sac percé, et cela malgré tous les efforts persévérants entrepris. Ainsi donc, à écouter Dieu, rien n'allait plus pour le peuple d'Israël. Tout n'était qu'incohérence, contradiction, paradoxe, alors qu'il en avait été tout autrement 20 années auparavant. En effet, il vaut la peine de le rappeler ce matin, à l'occasion de son retour annoncé 70 années auparavant par le prophète Jérémie, ce retour s'est déroulé sous le meilleur des auspices. Car, après plus d'un siècle, les 12 tribus d'Israël vont enfin se retrouver. Les 12 tribus d'Israël vont marcher sous la même bannière, dans une unité retrouvée et enfin rétablie. Mais surtout, ils ont marché dans le désir de renouer leur communion avec Dieu. Et c'est ainsi que dans le chapitre 50e du livre de Jérémie, nous lisons ceci. « Qu'en ce temps-là, les enfants de Juda et les enfants d'Israël, les enfants de Juda et les enfants d'Israël reviendront ensemble, ils marcheront en pleurant, c'est-à-dire dans l'humilité et la repentance, ils chercheront Dieu, ils s'exhorteront à s'attacher à l'Éternel. » Tel fut l'état d'esprit du peuple. Son retour a été synonyme d'un véritable réveil spirituel qui trouva son prolongement dans la restauration de l'autel des holocaustes et de la mise en place des fondations du temple. Mais ayant rappelé cela, comment oublier qu'après avoir vécu 70 années en captivité, ce peuple est également rentré au pays, le portefeuille, les poches et les mains plus que pleines. Son compte en banque était assuré. Il était des plus fournis. Et c'est tellement vrai que dès leur arrivée en Israël, ils offriront, selon Esdras chapitre 2, pour la reconstruction du temple, 61 000 darics, c'est-à-dire 61 000 pièces d'or et 4 tonnes d'argent. Ce qui fera dire à M. Pache, pour ceux qui l'ont connu, directeur de l'Institut biblique d'Emmaüs, en accord avec d'autres commentateurs de la Bible, ce qui lui fera dire qu'en 1941, que cela représentait 2 700 000 francs suisses. 2 700 000 francs suisses en 1961, auxquels nous pourrions ajouter plusieurs zéros, puisque nous savons qu'à l'époque, un franc suisse, pour avoir un franc suisse, il nous fallait payer entre 26 à 30 francs belges. Remarquez qu'il n'est question ici que d'une offrande et que d'une contribution volontaire. Cela nous montre ce qu'ils avaient encore de côté, en poche. Alors oui, sans conteste, tout avait bien commencé pour eux. Après avoir recouvré la liberté, ils ont connu non seulement un temps de riche bénédiction spirituelle, mais également matérielle. Mais maintenant, Dieu dira, tout n'est que paradoxe, incohérence, contradiction, rien ne va plus selon l'expression consacrée. Et la raison en est, et elle est simple, ils refusent de s'inscrire dans la volonté divine. Ce peuple dit, avons-nous lu, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Mais dites-moi, ce discours par hasard, ne serait-il pas quelque part le nôtre? Travailler à l'édification de l'Église de Jésus-Christ, cette pensée fait-elle l'objet de ma préoccupation, de mon désir, de mes recherches? Ou bien tout comme pour les Israélites d'autrefois, ce temps n'est pas venu pour moi. Il n'est pas venu, il n'entre pas dans mes projets, parce que tout simplement, je suis convaincu que je n'ai pas de don pour cela, pour ce faire. Et cela d'autant plus lorsque je lis dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12 que dans sa souveraineté, Dieu a donné à l'un par le Saint-Esprit une parole de sagesse, à un autre celle de la connaissance, à un autre encore celle de la prophétie. Mais moi, je me retrouve dans aucun de ces quatre figures. Je n'ai rien, il ne m'a été rien donné et je reste avec mon amertume. Chers amis, si c'est là notre discours, laissez-moi vous dire que celle-ci ne nous dédouane pas pour autant. car même si nous sommes capables de l'étayer par l'un ou par un autre texte biblique, voyez-vous, il est un don dont la Bible parle, une arme, un ministère qui est à notre mesure et auquel nous sommes appelés à mettre en œuvre en tout temps et en toutes circonstances. Et ce don n'est autre que la prière. Ce don n'est autre que la prière. Alors je peux très bien ne pas avoir le don de la prédication, de l'enseignement, de tous ces ministères dont l'apôtre parle dans son épître aux Corinthiens. Mais il est un don qui est à ma mesure. Et c'est celui de la prière. À ses disciples, Jésus dira « Veillez et priez en tout temps ». Luc 21, 36. « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Luc 22, verset 40. « Priez pour tous les saints », ajoutera l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, verset 18. « Priez sans cesse », 1 Thessaloniciens 5, 17. « Je veux que les hommes prient en tout temps, en tout lieu », 1 Timothée 2, verset 18. Et Jacques d'apporter à son tour cette exhortation « Quelqu'un est-il malade ? Qu'il prie ?» Chapitre 5, verset 3. « Priez les uns pour les autres », chapitre 5, verset 16. Quant au livre des Actes, il nous rappelle qu'après l'ascension de Jésus-Christ, dans les heures qui ont suivi l'ascension de Jésus-Christ, tous, c'est-à-dire les 11 disciples, étaient montés dans la chambre haute, où ils se tenaient d'habitude et d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Chapitre 1, verset 14. Priez en tout temps. Priez avec persévérance. Priez afin que vous ne tombiez en tentation. Priez sans cesse et en tout lieu. Est-ce cela qui me caractérise? Mais est-ce que cela me caractérise? Est-ce là ce que le Seigneur découvre, est amené à prendre acte dans ma vie? Ou bien doit-il me dire, où est-elle donc ta vie de prière? Toi qui te consacres avant ton travaux de tous les jours, aux choses d'ici-bas, importantes en soi, il est vrai, mais que l'Ecclésiaste appelle vanité de vanité, et preuve en est, à l'instar du peuple d'Israël, du temps d'âgé, elle te laisse sur ta faim, elle ne te désaltère pas, et pourtant n'as-tu pas goûté, n'as-tu pas mangé à tout ce que le monde peut offrir en abondance, n'as-tu pas bu au plaisir que t'offrent tes idoles connues de toi seul, et dont malgré tous tes efforts, tu ne peux t'en séparer, tu y reviens sans cesse. Et puis, as-tu vraiment chaud, revêtu comme tu l'es, de ta suffisance, de ta justice, de tes vérités, de tes convictions trompeuses? Ta vie est-elle vraiment synonyme de joie et de paix profonde alors que la prière est aux abonnés absents et que ta vie, dès lors, est un constant paradoxe? C'est pourquoi Dieu nous dit dans sa parole, tout comme pour les Israélites d'autrefois, je te propose de t'arrêter, afin que tu puisses toi aussi considérer attentivement tes voies. Oui, considérer attentivement tes voies et te souvenir que je suis le pain de vie et que celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jean 6, verset 35. Je suis également la source d'eau vive, Jérémie 2, verset 13. Et que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Jean 4, verset 4. Mais souviens-toi également que moi seul revais l'homme et la femme qui s'approche de moi avec un cœur sincère et repentant de l'habit du pardon, de l'habit de sainteté, de l'habit de justice et de fête. Aussi je te conseille d'acheter auprès de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Apocalypse 3, verset 13. Voilà, chers amis, ce que Dieu nous propose, qu'il nous offre et veut nous offrir en contrepartie de nos paradoxes, de nos incohérences spirituelles Mais faut-il encore que nous en ressentions le besoin, le désir, que nous ayons vraiment faim et soif de notre Sauveur, de son pardon, de sa justice et de l'habit de fête, de ce vêtement blanc sur lequel l'entrée de la salle de noces ne sera refusée au jour glorieux du retour du Christ. Considérez attentivement vos voies. C'est là l'exhortation, le mot d'ordre du jour. Amen.